Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, libération du préfet de Ténénkou, enlevé en mai dernier dans la région de Mopti, ainsi que d'un journaliste malien.
En Côte d'Ivoire, le dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université publique, Johnson Zamina Kwasi, a été inculpé et écroué hier à Abidjan.
Les présidents du Burundi et de la Somalie veulent de toute urgence un sommet des pays contributeurs de troupes de la force africaine en Somalie, la MISOM.
Le président américain Donald Trump minimise les attentes pour son sommet la semaine prochaine avec le nord-coréen Kim Jong-un.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, le préfet de Ténénkou, Makandoumbia, enlevé le 8 mai dernier dans la région de Mopti, et le journaliste Issiaka Tamboura ont été libérés hier. Ils sont maintenant à Bamako en soins intensifs. Leur libération a été rendue possible grâce au service de renseignement malien, la DGSE, qui a mené les négociations avec le ravisseur. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré fait le point.
Parti pour une cérémonie sociale dans son village natal, c'est au retour que notre confrère Issiaka Tamboura, du journal de Soft, a été enlevé le 27 décembre 2018 sur l'axe Boni-Nonkara. Comme Issiaka Tamboura, le préfet de Ténénkou a été aussi libéré. Il s'agit de Makandoumbia, qui avait été enlevé le 8 mai 2018 sur la route Mopti-Ténénkou. Makan partait pour occuper son poste au niveau de Ténénkou en tant que représentant de l'État. Malien. Aujourd'hui, la libération de Makan est saluée par ses camarades Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat national des administrateurs civils.
Aux environs de 19h lundi, nous avions vu que notre collègue serait au niveau d'un centre hospitalier à soins intensifs. Nous avons essayé de recouper les informations jusqu'à ce matin où la confirmation a été donnée. Nous sommes d'autant plus heureux que nous cessons de nous organiser du mieux que nous pouvons pour vraiment apporter le message de douleur de famille et de ses collaborateurs.
Ces deux libérations ont été obtenues grâce à l'intervention de la DGSE malienne Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le dirigeant du premier syndicat des professeurs d'université publique, Johnson Zamina Kwasi, qui a été arrêté lundi, a été déféré hier au parquet d'Abidjan. Précision de Morgane Guériec.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs a été écroué à la préfecture de police où il a passé la nuit. D'après Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme qui regroupe une cinquantaine de syndicats de fonctionnaires, un autre camarade a aussi été déféré au parquet d'Abidjan dans l'attente d'être présenté à un juge. Monsieur Zadi, qui dénonce une violation des libertés syndicales, estime que cette arrestation abusive suspend une trêve sociale signée en août 2017 entre le gouvernement et les syndicats. La grève des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est rentrée lundi dans sa cinquième semaine. Outre l'arrestation de deux enseignants, le conseil de discipline de l'université a exclu quatre enseignants, dont le responsable de la CENEC pour des violences. Sept autres professeurs ont été suspendus de toute activité académique pour 6 à 12 mois. Monsieur Kwasi avait déjà averti lundi qu'une telle mesure allait exacerber la grève et durcir leur mouvement.
Au Cameroun, des militaires de Bamenda, dans la région anglophone du Nord-Ouest, se sont assignés une nouvelle mission, ramasser les ordures. C'est après la destruction par des séparatistes présumés du matériel de la société normalement chargée de cette tâche. Des détails avec John Lyndon.
Isacam, l'entreprise spécialisée dans la collecte des ordures ménagères, a suspendu ses activités à Bamenda le 1er février. L'arrêt de ces travaux intervient à la suite de la destruction de camions Ben et d'autres installations par les hommes armés séparatistes anglophones présumés. Depuis, les ordures s'accumulent dans la ville. Des habitants excédés les brûlent, ce qui provoque des incendies et fumées toxiques. Des soldats et sapeurs-pompiers ont été déployés dans les quartiers de Bamenda pour remplacer les éboueurs. Nous ne pouvions pas continuer de voir les populations souffrir de la situation, a déclaré le général Robinson Naga, commandant de la 5e région militaire basée à Bamenda. Depuis fin 2017, les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont le théâtre d'un conflit armé. Selon International Crisis Group, plus de 200 soldats et au moins 500 civils ont été tués.
Les présidents burundais et somaliens ont demandé hier, de toute urgence, un sommet des chefs d'État des pays contributeurs de troupes de la force africaine en Somalie, la MISOM, afin de réexaminer la question du retrait annoncé de 1000 soldats du contingent burundais de Somalie d'ici au 28 février. Le président Pierre Nkurunziza a eu un tête-à-tête à Bujumbura avec son homologue somalien, Mohamed Abdoulaye Mohamed. En décembre 2018, l'UA avait demandé au seul Burundi le retrait des 1000 soldats en question dans le cadre d'un programme de désengagement progressif de la MISOM contesté par le Burundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump minimise les attentes pour son deuxième sommet la semaine prochaine avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Mais M. Trump a dit espérer que des choses très positives vont se passer. Le président américain a souligné qu'il peut être patient sur la question de l'élimination des armes nucléaires et des missiles balistiques de la Corée du Nord tant que Pyongyang ne reprendra pas les tests de telles armes. Le porte-parole du département d'État, Robert Paladino, a dit à la Voix d'Amérique que ces déclarations du président Trump ne constituent pas un changement de politique.
Toujours à Washington et selon un rapport parlementaire, de hauts responsables de la Maison-Blanche avaient tenté de promouvoir un plan de plusieurs milliards de dollars pour construire des réacteurs nucléaires en Arabie Saoudite et partager de la technologie nucléaire américaine avec le Royaume. Et ce, malgré les mises en garde d'officiels chargés des questions de sécurité et d'éthique. La commission de contrôle et de réforme de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a publié ce rapport hier et annoncé l'ouverture d'une enquête. À l'origine, les révélations de plusieurs lanceurs d'alerte, selon lesquels l'ancien conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale, Michael Flynn, et deux de ses collaborateurs ont fait fi d'avertissements répétés contre une possible violation des lois américaines.
En Syrie, des dizaines de civils, mais aussi des combattants du groupe État islamique, se sont rendus aux forces arabo-kurdes des FDS hier dans l'est du pays. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Cela fait plusieurs jours que plus personne n'était sorti de la petite poche encore sous contrôle du groupe État islamique, du village de Bakrouz, petit hameau de la province de Deir ez-Zor, près de la frontière irakienne. Les FDS, les forces démocratiques syriennes, avaient d'ailleurs ralenti leurs opérations, disant craindre que des civils soient utilisés comme boucliers humains. Daesh est désormais acculé dans un minuscule réduit qui a été visé hier par 3 frappes aériennes et des bombardements à l'artillerie. Pour la première fois en 4 jours, des dizaines de civils et quelques combattants se sont alors rendus au FDS, dont des étrangers. L'ONU s'est dit préoccupée pour quelques 200 familles, dont des femmes et des enfants, qui seraient prises au piège des combats. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 40 000 personnes, principalement des familles de djihadistes, ont fui le secteur depuis début décembre.
Au Venezuela, les militaires fidèles au président Nicolas Maduro se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur nation face aux milliers d'opposants qui se préparent à converger vers les frontières pour faire entrer l'aide humanitaire stockée aux portes du pays. À l'appel de Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, quelques 700 000 volontaires, selon l'opposition, ont l'intention de se rendre à bord d'autocars le 23 février au poste frontière pour prendre livraison de l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis et le Brésil. On ignore toutefois comment ils espèrent déjouer le blocus des militaires.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Un an après la rupture de leur contrat, Veolia cède au Gabon 51% de ses parts dans la société d'énergie et d'eau qui redevient publique. Grâce au rachat de ses actions, l'État gabonais va pouvoir influer la politique d'accès à l'eau et à l'électricité. Il accusait Veolia de ne pas offrir un service de qualité et de polluer le sol. Le groupe affirmait que les règles du contrat initial en termes d'investissement public n'étaient pas respectées. Ce litige est donc réglé. Glencore, le plus grands producteurs de cobalt au monde, veut réduire la production de l'une de ses plus grandes exploitations minières, Mutanda Mining Sarl, en République démocratique du Congo. La société compte retirer de la circulation une partie importante de cuivre et de cobalt, deux métaux essentiels. En plus, sur ses 7500 employés, elle prévoit d'en licencier environ 2000, principalement des entrepreneurs dont les contrats arrivent à expiration ou sont en cours de résiliation. Pour finir, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique accorde au Nigeria Sterling Bank un prêt de 65 millions de dollars. Financial Afrique rapporte que ces fonds sont destinés à financer des projets du secteur privé et des exportations arabes vers les importateurs africains.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La CAF s'engage à soutenir les représentants africains au prochain mondial des moins de 20 ans.
Oui, l'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, en marge de la CAN des moins de 20 ans tenue au Niger du 2 au 17 février dernier. Sont concernés le Mali vainqueur de la compétition, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Écoutons Ahmad Ahmad.
On demandera au département de développement de la CAF de se réunir avec le groupe d'études techniques et les quatre pays qualifiés pour voir ensemble comment ils profiteront d'améliorer leur équipe en prévision de la Coupe du Monde de moins de 20 ans.
Le président de la CAF, Ahmad, était au micro de Siaka Traoré, notre envoyé spécial au Niger. Je rappelle que le mondial des moins de 20 ans aura lieu en Pologne du 25 mai au 16 juin prochain.
Les championnats gabonais enfin de retour.
Oui, après un arrêt faute de moyens financiers, les championnats nationaux des 2-1 et 2-2 débuteront dès ce 23 février. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de ce championnat élite opposera AS Dikaki, promu en D1 à l'AS Manga Sport, champion en titre. Cette reprise fait suite à la convention de financement signée le 8 février entre le ministre des Sports, Alain-Claude Billy Binze, et la société Gabon Oil Company, qui va financer la reprise de la compétition.
Ismaili gagne le club africain sur tapis vert.
Oui, même s'il a finalement été réintégré en Ligue des Champions, le club égyptien paye ainsi pour les jets de projectiles de ses supporters qui ont entraîné l'arrêt du match face au club africain le 18 janvier dernier. La commission de discipline de la CAF a annoncé que le club africain remporte le match 3-0 sur tapis vert. Ismaili devra aussi s'acquitter d'une amende de 40 000 dollars et écope de deux matchs à huis clos, dont un avec sursis valable 24 mois.
Suite et fin des huitièmes de finale aller en Ligue des Champions ce soir.
Oui, Cristiano Ronaldo revient à Madrid avec la Juventus Turin pour affronter l'Atlético. En 31 matchs face au Colchonero, CR7 a inscrit avec le Real 22 buts et donné 8 passes décisives. Mais en face, il y a une autre sorte d'arme fatale, Diego Simeone, qui a toujours posé beaucoup de problèmes à la Juve. Sur le banc, il reste invaincu de Catane à l'Atlético avec 2 nuls et 1 victoire. Dans l'autre match, eh bien, Manchester City se déplace chez les Allemands de Schalke 04.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des maladies des reins.
Les reins sont des organes qui aident à éliminer les déchets et l'excès de liquide dans l'organisme. Les maladies rénales font partie des maladies chroniques les plus négligées dans le monde.
Pour en parler, nous recevrons le docteur Allé Marie-Patrice, néphrologue au Cameroun, et nous dira comment faire pour entretenir ses reins.
Nous écouterons le témoignage d'Alain, malade d'insuffisance rénale. Il nous parlera de sa vie de malade et de son traitement.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30. Temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Radio Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Sénégal poursuivant sa série sur les attentes des populations à quelques jours de la présidentielle du 24 février, notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay, nous parle aujourd'hui des soucis de bonne gouvernance.
La bonne gouvernance est au cœur des débats et des conversations des Sénégalais à une semaine de la présidentielle du 24 février 2019. Amdi Diop est gérant d'un service de transfert d'argent. Il réclame la rupture, comme l'avait promis le candidat Macky Sall en 2012.
Bonne gouvernance, je reste perplexe, parce qu'on nous avait promis une gouvernance sobre et vertueuse, on nous avait promis une rupture, mais aujourd'hui on se rend compte que rien n'a changé. Si on n'assiste pas pire à ce qui se passait la fois passée, on n'assiste pas moins que cela. Il faudrait que l'on matérialise ces promesses-là, au lieu de continuer à faire rêver les Sénégalais.
Certaines personnalités politiques de l'opposition ont été poursuivies dans des procès que beaucoup qualifient de politiques. Une démarche que Salif Fall, étudiant, qualifie d'antidémocratique. Il attend du futur président de lutter contre l'instrumentalisation de la justice qui, selon lui, doit être impartiale.
Les autres qui sont là actuellement, au début de leur mandat, donc leur plateforme c'était une bonne gouvernance. Maintenant, on a tendance à voir que donc ils sont en train de ne pas respecter ce qu'il avait dit dès le début. Parce qu'on peut citer le cas avec ce qui est d'actualité avec Karim Watt. Donc, ils ont utilisé tous les moyens de l'État. Donc, on se pose la question, est-ce que c'était typiquement de la politique ou bien de la bonne gouvernance?
L'éthique et la transparence dans la gestion des deniers publics doivent être prises en compte par le président qui sera élu, nous dit Tierno Loum.
La bonne gouvernance, par exemple, c'est le problème de la transparence. L'éthique, je ne pense pas. Auparavant, j'y pensais, mais maintenant, bon, je n'y crois pas. Parce que la façon dont vont les choses là, je ne crois pas qu'il va respecter les choses qu'il avait promis.
Le clientélisme et le népotisme politique sont à bannir, c'est du moins l'avis de Cheikh Diame.
On attend jusqu'à présent, on reste sur notre faim. Hein. Quand on entend l'actualité, c'est les 100 000 francs, des tissus qu'on donne pour on ne sait quoi. C'est pas demain la veille la rupture, quoi.
Rationaliser les structures administratives pour une meilleure prise en charge des missions des institutions étatiques, veiller à la qualité des services rendus aux usagers citoyens, réduire le déficit de communication interne et externe de l'administration ou encore impulser une gestion moderne des ressources humaines garantissant une acquisition de personnel de qualité sont entre autres les recommandations émises par la CDAO dans son rapport dénommé Programme d'appui à la bonne gouvernance. Des recommandations qui s'ajoutent aux nombreuses doléances des Sénégalais dans le domaine de la bonne gouvernance. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Mali, lancement des activités de la 19e édition du Forum de Bamako. Le thème de cette rencontre, l'immigration. Quelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique, opportunités ou menaces pour les pays d'accueil, nationalisme ou métissage, construire des ponts ou construire des murs, que faire ensemble? Autant de questions auxquelles le Forum de Bamako tentera de trouver des solutions communes. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Pour cette conférence de presse de lancement, les organisateurs ont fait la genèse de leur activité. Avant d'aborder le thème de l'immigration qui a été choisi comme thème de cette 19e édition, professeur Alioune Sall du Sénégal.
À mon sens, on va parler d'un problème vieux comme le monde. L'homme est né en Afrique, mais il n'est pas resté en Afrique. Il a migré sur d'autres continents. Mais la question de la migration se pose dans un contexte nouveau, qui est à la fois un contexte d'opportunité, mais un contexte où il y a également d'énormes risques et d'énormes défis qu'il faut relever. Et le pari qui est fait, c'est que, à Bamako en tout cas, les défis peuvent être relevés et ensemble, il est possible de construire des ponts qui feront que demain, il fera bon vivre et en Europe et en Afrique.
Les activités prévues dans le cadre de cette 19e édition sont en parfaite cohérence avec les différents axes de la politique nationale de l'immigration au Mali. Yaya Sangaré, ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine.
Notre gouvernement est engagé depuis plusieurs années dans les réformes institutionnelle pour mieux gérer la migration d'une part et d'autre part faire de la diaspora un acteur central de notre développement. Mon département qui est en charge de la migration a engagé plusieurs actions, notamment l'introduction de projets de texte relatifs à la création d'un observatoire national de la migration, l'opérationnalisation des antennes d'accueil, d'assistance et d'orientation des malades extérieurs au niveau de nos frontières, à l'aéroport, dans les gares routières et ferroviaires.
Plusieurs organisations internationales et nationales sont impliquées dans l'organisation du Forum de Bamako, qui a des sous-thèmes comme la sécurité alimentaire. Moussa Alassane Diallo, membre du Conseil national du patronat du Mali.
Mais en parlant de sécurité alimentaire, ça c'est le chapeau, c'est toutes les questions liées à la politique agricole dans notre pays. Comment aujourd'hui faire de cet instrument de politique agricole un instrument de fixation des populations? Donc on peut être amené à apporter des réponses structurelles en amont ou en aval à l'immigration. Mais nous, on essaie de poser autrement les problèmes, autrement dit, attaquer la problématique de l'immigration en amont et par des politiques publiques de développement sur la base des potentialités dont dispose le Mali.
Les questions économiques liées à l'immigration seront traitées. Abdoulah Koulibaly, président de la Fondation Forum de Bamako.
Lorsque vous voyez les gens partir, c'est qu'il y a un problème de besoin non satisfait. Nous avons décidé d'attaquer la problématique de la migration sous l'angle de la satisfaction des besoins des gens localement pour leur permettre de rester là où ils sont parce qu'ils sont bien là où ils sont. Et pour ce faire, il faut développer. Donc l'économie sera au cœur de cette 19e édition. Le patronat va travailler beaucoup sur le financement de l'économie, les infrastructures pour permettre aux gens d'avoir un environnement propice à leur développement localement.
Aujourd'hui, il y aura un premier débat sur la sécurité alimentaire avant la session inaugurale du forum prévue ce jeudi. Cette cérémonie sera présidée par le président Ibeka, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Nigeria, le principal parti d'opposition s'est réuni à Abuja pour dénoncer les propos du président sortant, Muhammadu Buhari, qui a dit en début de semaine avoir ordonné aux forces de sécurité d'agir sans pitié contre les semeurs de troubles pendant les élections de samedi. D'Abuja, notre correspondant Gilbert Tamba fait le point.
La sortie du président nigérien Muhammadu Buhari au cours de la réunion de son parti a dominé les débats de la réunion d'urgence du principal parti d'opposition, le PDP. Le président du Parti démocratique du peuple, Uche Segondos, n'a pas caché sa colère suite à cette déclaration.
Ne demandez pas que ces gens soient arrêtés et traduits devant la justice, mais vous aviez donné l'ordre de les tuer. Monsieur le président, vous n'avez pas raison. Si les membres de votre parti ne peuvent pas vous le dire, nous allons vous le dire. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'opposition. Nous vous demandons de revenir sur cette déclaration et ses instructions.
Même réaction de déception au sein des populations et de la société civile du pays. Pour Diok Emmanuel du CODE, une ONG locale, il y a une loi qui prévoit une punition pour des actes de violence durant la période électorale.
La loi électorale stipule clairement la punition pour les gens qui attaquent des bureaux de vote. Donc, si vous emportez un bureau de vote le jour de vote, vous devez être arrêté et jugé. Si vous êtes coupable, vous serez condamné à 24 mois de prison. Mais pour un président de faire de telles déclarations qui ont tendance à provoquer des violences et qui demandent à l'armée de tirer sur les gens, c'est décevant.
La loi électorale interdit également la présence des éléments de l'armée nationale dans les bureaux de vote. Awal Moussa Rafsanjani du CISLAC, une organisation de la société civile, s'inquiète et pense que la déclaration du président pourrait avoir un impact négatif sur la participation des électeurs aux élections de ce samedi.
Il y aura une tension et cela pourrait décourager certains à sortir pour aller voter de peur d'être tués. Déjà, l'armée a publié un communiqué dans lequel elle affirme qu'elle va obéir aux instructions du président. Donc cela veut dire que beaucoup d'électeurs auront peur de sortir.
Les Nigériens sont appelés aux urnes ce 23 février pour des élections présidentielles et législatives initialement prévues pour le week-end dernier, mais reportées à la dernière minute par la CENI pour des raisons logistiques. La Commission électorale nationale indépendante a finalement cédé à la pression des partis politiques, levant l'interdiction de faire campagne avant le scrutin du samedi, comme le prévoit la loi électorale du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que la résurgence de l'antisémitisme constitue un problème central pour les communautés juives. Déjà lundi, il avait dénoncé l'antisémitisme rampant à la veille d'un sommet avec les dirigeants des pays d'Europe centrale à Jérusalem. La Pologne s'est retirée de cette réunion citant des insultes d'Israël. Et hier, Netanyahou est encore revenu sur ce thème sensible avec la profanation d'un cimetière juif en France. Le point avec Raissa Girondin.
Il s'est produit en France quelque chose de choquant. En Alsace, 84 tombes juives ont été profanées par des sauvages antisémites au moyen de symboles nazis, a déclaré Netanyahou dans un communiqué. Il a appelé les dirigeants français et européens à prendre fortement position contre l'antisémitisme.
Les efforts malveillants visent à diaboliser l'État juif, à priver le peuple juif du droit à l'autodétermination sur notre terre ancestrale. Je pense que nous devons l'appeler simplement et clairement antisionisme, la nouvelle forme d'antisémitisme. Et cela n'a pas d'importance de savoir d'où il vient, de l'Est, du Centre-Est ou de l'Ouest.
Cette fois-ci, Netanyahou s'est bien gardé d'appeler les juifs à venir vivre en Israël. En 2015, il avait piqué au vif les dirigeants français en lançant aux juifs qu'Israël était leur foyer après l'assassinat de 4 juifs par un djihadiste à Paris. Sur Twitter, son ministre de l'immigration, Yoav Gallant, s'en est chargé. Il appelle les juifs de France à rentrer à la maison, immigrer en Israël. Pour Isaac Herzog, président de l'agence juive chargée de l'immigration, la profanation d'un cimetière en Alsace est une indication supplémentaire de l'antisémitisme qui se répand à travers l'Europe et menace les juifs jusque dans la rue. Dans une interview télévisée dimanche, le ministre des Affaires étrangères par intérim, Israël Katz, avait déclaré que les Polonais sucent l'antisémitisme avec le lait de leur mère. Fin de citation. La Pologne s'est aussitôt retirée du sommet prévu hier mardi à Jérusalem. Mateusz Morawiecki, premier ministre polonais, s'explique.
Les propos tenus par le ministre des Affaires étrangères par intérim, M. Katz, sont absolument inacceptables, non seulement en langage diplomatique, mais pour moi, ils sont tout à fait inacceptables dans le domaine public.
À Paris, des manifestants aux Gilets jaunes ont aussi suscité l'indignation. Un de leurs groupes a agressé verbalement le philosophe français Alain Finkielkraut, un juif qui passait par là. Il a fait remarquer que personne ne lui avait adressé des insultes antisémites et a suggéré que l'agression émanait d'un extrémiste musulman.
Les Palestiniens, c'est ça. Nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël, devenu aux yeux de certains, État criminel et même génocidaire. Et donc, on est beaucoup moins bien armés pour combattre une haine de ce type parce qu'elle est pleine de bonne conscience. L'antisémitisme d'aujourd'hui est devenu un antiracisme.
Par contre, Vincent Duclerc, un historien français qui a visionné la vidéo de l'incident, n'est pas d'accord.
Il faut arrêter effectivement de dire « Ah, on n'a pas dit ça le juif, donc c'est pas antisémite ». En plus, ceux qui effectivement l'agressent savent bien que ça le juif, on se met sous le coup de la loi, ça le sioniste, on en échappe. Donc il faut être très très clair, c'est une agression antisémite absolument inouïe.
Beaucoup de pays européens luttent avec la mémoire de leur passé. La France a toujours eu du mal avec les rafles du Vel d'Hiv et la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'année dernière, la Pologne, qui a pourtant abrité des camps de concentration nazis, a refusé de blâmer les crimes commis pendant l'Holocauste. L'antisémitisme et le discours de haine sont interdits dans de nombreux pays, mais les attaques contre les communautés juives sont fréquentes.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.